Bonjour à vous tous, où que vous soyez à travers le monde, j'espère que votre fête est bien démarrée. Sur la scène mondiale, au cours de la dernière année, ça a été une période très difficile économiquement, partout sur la face de la Terre. Il y a eu de la confusion, il y a eu de la panique, et même dans les cercles financiers, plusieurs se sont demandé comment est-ce que ça va m'affecter, comment est-ce que ça va affecter ma vie, mon emploi. Et certains ont même paniqué. Dans le monde, j'espère pas dans l'Église, bien sûr, mais la question que les gens se posent, est-ce que je vais perdre mon emploi? Quel futur m'est réservé? Quel avenir m'attend? Plusieurs d'entre vous avaient bien sûr eu certaines craintes, avaient ressenti les inconforts de la présente situation. Certains sont proches de la retraite et on se demande ce qui va nous arriver. Bien sûr, nous avons une vision extraordinaire du royaume de Dieu qui approche, mais malgré tout ça, nous vivons dans le monde et nous savons qu'il y a un chaos qui s'en vient et nous avons vécu au cours des dernières années des choses vraiment inconfortables et ça nous affecte individuellement et collectivement. Et nous savons que Dieu va protéger ses enfants, mais nous savons aussi que nous faisons partie de cette société-là et que ce qui se passe dans la société nous affecte de plusieurs façons. Mais durant ces 8 jours de la fête des tabernacles, nous avons l'immense bénédiction de nous isoler de cette société et de ses problèmes et de nous approcher de Dieu, de mettre notre attention sur le royaume de Dieu qui s'en vient bientôt. Et nous pouvons nous réjouir devant le Dieu Tout-Puissant, alors que nous anticipons l'arrivée prochaine du roi des rois et l'établissement du royaume sur la terre. La question que j'aimerais poser aujourd'hui est celle-ci. Comment est-ce que nous allons faire face au chaos qui vient sur le monde? Comment maintenir une attitude positive dans des périodes troublées comme celle que nous venons de vivre au cours de la dernière année et des années qui viennent? Le titre de mon sermon, « Un avenir et un espoir ». Aujourd'hui, j'aimerais d'abord commencer par regarder quelques-uns des événements mondiaux qui ont frappé la planète au cours des 12 derniers mois. Et ça va situer le contexte dont je vous parle aujourd'hui, ce contexte qui affecte notre famille et notre vie personnelle. Et deuxièmement, j'aimerais qu'on voit différentes façons de faire face à ces situations-là et comment prospérer spirituellement, comment croître spirituellement et comment avoir confiance en Dieu en ces temps difficiles. Nous sommes actuellement dans une période de transition vers le royaume de Dieu. Alors, commençons d'abord par regarder ce qui s'est passé sur la scène mondiale au cours de la dernière année environ. Je veux d'abord vous citer une expression, une déclaration faite par M. Warren Buffett, un homme qui a connu un grand succès dans le domaine financier, un homme des plus riches de la planète. Il a dit ceci, « De toute ma vie, j'ai rarement vu des gens être aussi inquiets financièrement qu'ils le sont présentement. La récession va empirer. Je ne veux pas créer de faux espoirs. » Comme si les choses pouvaient, comme par magie, s'améliorer en quelques mois. Notre économie subit un choc comparable à celui de l'attaque sur Pearl Harbor au plan militaire. Voilà qui peut sembler dramatique, mais jamais je n'avais utilisé cette phrase auparavant. La situation est réellement dramatique. Fin de la citation. C'est ce que M. Buffett a déclaré cette année. Au commencement de la crise financière que nous vivons, nous savons que ça a commencé aux États-Unis. Le marché immobilier a été artificiellement gonflé par des hypothèques irréalistes et à grand risque. On offrait aux gens des hypothèques sans même qu'ils aient à faire un paiement initial et avec un système où ils devaient payer les augmentations de taux d'intérêt par la suite. Ces augmentations-là sont venues par la suite. Et le marché de l'immobilier, on pensait, c'était une hypothèse naïve, les gens disaient « ça va toujours aller en augmentant ». Et la bulle immobilière a éclaté. Qui est à blâmer pour ça? Les investisseurs, les banquiers ont convoité des profits mirobolants. Et de leur côté, les acheteurs de propriétés se sont permis d'acheter des maisons qu'ils n'avaient pas le moyen d'acheter. Ce n'était pas seulement un problème américain. Le ministre des Finances allemand, Peter Steinbrück, a déclaré ceci. Le problème est dû aux investisseurs, aux banquiers et aux politiciens de New York, de Washington et de Londres, motivée par une tendance toute anglo-saxonne au profit excessif. Perspective intéressante. Une tendance anglo-saxonne au profit excessif, on appelle ça la convoitise. Il continue en disant « Le monde ne sera jamais plus ce qu'il était avant le début de cette crise. Les États-Unis vont perdre leur position de superpuissance et de fondement du système financier mondial. L'actuelle crise financière est par-dessus tout un problème américain. » Fin de la citation. Ça a commencé, bien sûr, aux États-Unis, mais ça s'est étendu à l'Europe et par la suite, ça s'est étendu ailleurs à travers le monde et c'est devenu un problème global. L'effondrement du crédit s'est répandu en Europe puis ailleurs. Selon cnnmoney.com, il est dit ceci, « D'autres faillites bancaires menacent encore de se produire, continuant de miner la confiance des investisseurs en un temps où l'économie globale ralentit, où les valeurs boursières plongent et où les marchés à court terme deviennent paralysés. » Fin de la citation. Selon le Centre d'études sur les politiques européennes, et je cite, « Certaines des principales banques européennes ont un ratio d'endettement qui constitue, dans les circonstances actuelles, une véritable bombe à retardement. » Fin de la citation. Voilà des prédictions tout à fait inquiétantes. Les valeurs boursières européennes ont plongé dramatiquement en France, en Allemagne, en Autriche, de même qu'en Angleterre, en Islande, en Russie, au Japon, à Hong Kong et dans de nombreuses autres nations. Aux États-Unis, certains experts ont déclaré que les actions entreprises par le gouvernement américain ne suffiraient sans doute pas pour arrêter l'ensemble de l'économie de plonger davantage dans la pire situation depuis plus de 25 ans, sinon depuis la Grande Dépression. Voilà qui est important. La sonnette d'alarme fut activée partout dans le monde concernant l'économie et la direction que prend le commerce mondial. Finalement, sur une note intéressante, ça décrit la nature humaine et le cœur du problème. Selon Netscape News, parlant de l'atmosphère sur le parquet de la bourse à New York, il est dit ceci, « La peur envahissait nos rues, la peur et la convoitise. Voilà ce qui mène le jeu à Wall Street. Je pense que la carcasse a été dépouillée jusqu'à l'os. » Fin de la citation. Voici une image puissante de la situation ici. Dans un tel cas où la carcasse a été dépouillée, les vautours, bien sûr, se sont lancés tout autour pour tirer leur part de profit de ce qui se passe aussi. L'économie peut s'améliorer, bien sûr, mais nous savons qu'éventuellement, l'économie va s'effondrer pour que la fin vienne. À un certain moment, les valeurs mobilières américaines avaient perdu 8,3 trillions de dollars américains. Et vous savez ce que ça représente? Pour que ce soit plus compréhensible, ça représente 27 000 dollars américains pour chacun des 300 millions d'Américains, hommes, femmes et enfants. C'est très impressionnant. 27 000 $ par personne sur le territoire américain. C'est incroyable. Ça n'a jamais été vu à un tel niveau auparavant. Le citoyen moyen ne possède pas beaucoup de valeurs boursières, bien sûr. Les gens de l'Église n'en possèdent pas grand richesse non plus. Mais quoi qu'il en soit, la situation autour de nous nous affecte d'une façon ou d'une autre. Certains ont eu des soucis concernant leur emploi, concernant leur petit investissement, en fonction de la retraite, et ainsi de suite, ou comment aider leur famille, payer les études des enfants et tout ça. Une récession, c'est quand les autres perdent leur emploi. Une dépression, c'est quand vous perdez votre emploi. Voilà une définition qu'on a donnée des deux situations. Quand ça a un impact personnellement sur quelqu'un, ça a un effet psychologique différent et plus puissant. Il y a un psychologue spécialisé en thérapie qui a récemment déclaré ceci concernant l'actuelle situation. Il y a une anxiété réelle concernant la façon par laquelle les gens vont faire face et ce qu'ils feront à l'avenir. C'est la première fois de ma vie que je constate une telle panique financière accompagnée de telles peurs. C'est la pire situation qu'il m'a été donné de voir. » Fin de la citation. Voilà encore une déclaration inquiétante qui concerne la vie des gens, leur stabilité, leur paix d'esprit, et ainsi de suite. Ces sortes de craintes envahissent plusieurs domaines de la société. Et bien que les gens de l'Église ne sont pas les plus riches, la tournure des événements mondiaux sur le plan économique nous affecte, ça touche nos revenus et notre stabilité. Nous savons que cette crise actuelle n'est peut-être pas la crise finale. Peut-être que ça devra attendre un peu pour la crise finale, mais on voit que ça va dans le même sens. Mais la question de fond, c'est que il nous faut être prêts pour faire face à la tempête lorsque la véritable tempête va se présenter. Avant la grande tribulation, avant la grande détresse, il nous faut être prêts mentalement, spirituellement et physiquement. Une des meilleures analogies qu'on peut utiliser pour illustrer cette situation-là et notre entrée dans le royaume de Dieu et notre avenir, c'est la naissance d'un enfant sur le plan physique. On peut comparer ça à notre naissance dans le royaume de Dieu. Lorsqu'on attend un enfant dans un couple, il y a beaucoup d'enthousiasme et on fait des préparations. Et plus on approche du moment de l'accouchement, plus il y a de préparations précises qui se font. On prépare la maisonnée, on prépare la chambre de l'enfant, on achète des vêtements, on planifie le voyage à la clinique pour l'accouchement ou à l'hôpital et on met tout prêt le plus possible. C'est un temps enthousiasmant. Et les parents sont réjouis alors qu'ils attendent ce petit paquet d'amour qui va paraître bientôt. Puis arrivent les premières contractions au cours des dernières semaines. Ce ne sont pas les dernières contractions immédiatement précédant l'accouchement. Ce sont des contractions préparatoires, plus lointaines, mais c'est un signal pour que le corps se prépare et que nous nous préparions psychologiquement et physiquement pour l'accouchement. Ce sont des signaux que le temps de la naissance se prépare. Et c'est un temps réjouissant pour les parents. La famille va s'agrandir. Il y a beaucoup de trépidation et de joie dans l'air. Et la maman ressent donc ses premières contractions. Et je me rappelle un jour que ma femme a dit à ce moment-là, elle a admis qu'à un certain moment donné, dans son esprit, elle s'est dit, « Je ne veux pas faire ça, je ne veux pas passer par cette situation-là. » Mais, bon, on ne peut pas reculer. Le processus est enclenché, on doit affronter le futur, on doit affronter ce qui vient. On se fait à l'idée. Alors, nous sommes actuellement, sur le plan spirituel, dans les étapes préparatoires à notre naissance spirituelle. Nous avons été engendrés par le grand Dieu vivant. Nous avons reçu son Saint-Esprit pour croître spirituellement. Et j'espère que nous avons grandi spirituellement et que c'est encore notre intention de s'appliquer à croître spirituellement dans les années qui viennent pour naître dans la famille de Dieu. Nous sommes actuellement en gestation. Nous ne sommes pas encore nés dans la famille de Dieu. Ça se produira au retour de Christ. Mais nous sommes à l'époque, si vous voulez, des contractions préparatoires. Les douleurs de l'enfantement n'ont pas vraiment commencé encore, mais nous nous approchons année par année et mois par mois. Et il y aura des douleurs finales avant l'accouchement. Et c'est la seule route ou c'est le seul chemin qui va nous mener à la naissance dans la famille de Dieu. Alors, donc, il y a un mélange d'enthousiasme et de crainte en même temps. Et c'est normal, c'est humain. Mais nous regardons vers le royaume de Dieu qui s'en vient avec une grande joie. Et nous savons que nous devons passer par ce processus de l'accouchement et nous devons y faire face avec confiance envers notre Dieu qui va nous aider. Ça doit nous encourager, quoi qu'il se produise dans les mois et les années qui nous attendent. Alors, dans le temps qui nous reste, pour le sermon, j'aimerais voir de façon plus précise de quelle façon nous pouvons faire face à l'anxiété, aux craintes, et comment nous pouvons nous développer mentalement, émotivement et spirituellement durant des périodes même d'épreuves. Nous sommes dans une période de transition actuellement qui va nous mener au royaume de Dieu. Nous savons que dans 1 Jean 4, verset 18, il nous est dit que l'amour parfait bannit la crainte. Il n'y a pas de crainte dans l'amour parfait. Nous devons développer l'amour du grand Dieu vivant et graduellement, nos craintes vont s'effacer et nos anxiétés vont s'amenuiser et s'en aller. Et nous pouvons demander à Dieu de nous donner davantage de son amour parfait qui bannit justement la crainte sur le plan humain. Dieu est notre Père aimant qui est là pour ses enfants et qui répond toujours à nos demandes. Nous pouvons lui faire entière confiance. L'amour parfait bannit la crainte. Ça élimine la crainte. Voyons quelques points. Comment faire pour affronter ce qui vient et comment passer cette période d'actuelle transition où le monde est entré, qui va nous mener au retour de Christ? Comment nous préparer? Nous allons affronter certaines difficultés dans les années à venir, avant la naissance spirituelle que nous allons vivre. Premièrement, que ce soit avec nos finances ou avec notre santé ou que ce soit par rapport à notre sécurité de temps à autre, il nous faut, premièrement, chercher Dieu entièrement de tout notre cœur et chercher refuge en lui. Voilà la première façon d'affronter toutes les épreuves et tous les temps difficiles qui sont là et qui vont venir. Ça devrait être évident que la première chose à faire, parfois lorsqu'il y a une grande tension ou que nous sommes préoccupés par certaines difficultés, nous oublions cette étape la plus élémentaire, de chercher Dieu, de lui demander son aide. Parfois, on se demande d'abord, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment passer à travers? Qu'est-ce qui va arriver à ma famille? Et parfois, on se demande même, pourquoi ça m'arrive à moi? Et parfois, nous ne courons pas immédiatement vers Dieu, mais nous gardons l'attention sur les problèmes, alors qu'il faut faire le contraire, chercher d'abord Dieu, chercher refuge en lui. Vous savez, la perception de la réalité, qu'elle arrive ou non, qu'elle se produise ou non, elle est plus réelle pour nous sur le moment présent que l'intervention de Dieu. Alors, immédiatement, lorsqu'une crainte se présente, c'est le temps de chercher Dieu entièrement, de tout notre cœur, de nous tourner vers lui, de nous approcher de lui. C'est lui notre rocher, c'est lui notre forteresse. Je pense à Ésaïe 58, dans les moments de difficulté. Allez à Ésaïe 58. C'est le moment, lorsqu'on est en difficulté ou qu'on approche des difficultés, de se tourner immédiatement vers Dieu et de s'approcher de lui et de lui parler et de lui remettre nos difficultés entre les mains et même de jeûner pour s'approcher vraiment de lui, pour prendre les bonnes décisions, pour être capable d'avoir la force de passer à travers les épreuves. Trouver refuge dans notre Dieu. Ésaïe 58 et le verset 6. Il faut nous tourner vers Dieu de tout notre cœur. Et lorsque nous le faisons de la bonne façon, il y a une façon de s'approcher de Dieu, avec l'attitude de vouloir lui obéir, de vouloir faire sa volonté. C'est comme ça qu'on cherche Dieu. On ne doit pas s'approcher de lui seulement dans les temps de difficulté, mais en tout temps. Mais si on le fait régulièrement, lorsque viendront les temps de difficulté, on va le faire automatiquement et ça va bien aller. Verset 6, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. » Et il nous faut jeûner. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, ça veut dire cesse de pratiquer le péché. Et il faut nous appliquer à éliminer les choses que nous n'avons pas vaincues encore. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Parfois, on garde des choses dans notre vie trop longtemps, il faut les éliminer. Renvoie libre les opprimés. Et parfois, nous nous opprimons nous-mêmes à cause de notre passé, à cause de nos fautes passées ou à cause des choses que nous ne changeons pas. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Et parfois, on a un joug spirituel avec certaines fautes qui sont encore là et on doit les éliminer et demander l'aide de Dieu pour les éliminer. Verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim. Lorsqu'on commence à jeûner, on pense aux voies divines de Dieu et on pense à toutes les facettes de notre vie, on s'examine. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Parfois, lorsque les problèmes arrivent, il nous faut nous aider dans l'Église, nous entraider dans l'Église, nous soucier des autres. C'est ce que Dieu veut voir entre ses enfants, dans sa famille. Verset 8, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. » Voyez-vous, Dieu va intervenir promptement, parfois physiquement, mais parfois, et chose plus importante, Dieu va nous guérir spirituellement de ce dont nous devons être guéris. Dieu va nous guérir émotivement, spirituellement, de nos difficultés. Et ta justice, à ce moment-là, marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Quelle promesse extraordinaire! En d'autres termes, Dieu, par sa puissance, va vous protéger, va veiller sur vous. Verset 9. Alors tu appelleras. Si on cherche Dieu régulièrement et qu'on le cherche au moment où on a des difficultés, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Parce que tu marches habituellement avec lui. Tu crieras et il te dira, « Me voici ». Et parfois, on crie littéralement à Dieu dans des situations extrêmes. Mais si on est proche de Dieu, Dieu va dire, « Me voici, je suis là pour toi. Je t'aime et je vais prendre soin de toi. » Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, autrement dit, si nous nettoyons notre vie, si nous purifions notre vie, Dieu va intervenir pour nous. Verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et c'est la façon d'agir selon Dieu avec sollicitude envers les autres, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Formidable! Vos moments plus difficiles vont redevenir des moments heureux et joyeux, rempli de confiance au grand Dieu vivant. Et Dieu va être votre guide, comme c'est marqué au verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide et nous en aurons besoin au cours des prochaines années ou des prochains mois. Parfois, il arrive que nous sommes en difficulté financière et parfois nous affrontons des sécheresses financières, pour ainsi dire, ou sur d'autres niveaux. Mais Dieu va, comme c'est marqué ici, « Il rassasiera ton âme dans les lieux arides » et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Voici qu'il ouvre la porte maintenant sur ce qui va se passer dans le millénium. Nous aurons le privilège de rebâtir sur d'anciennes ruines des villes entières, des villes nouvelles. Et nous allons régner, comme le Christ a dit, sur la terre, avec le Christ, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Voilà. C'est un rappel que lorsque nous avons des décisions difficiles à prendre ou que nous rencontrons des difficultés, si nous ne sommes pas suffisamment proches de Dieu, il nous faut nous approcher de lui et chercher refuge auprès de lui. Nous savons que le roi David a éprouvé beaucoup de peur, beaucoup d'épreuves. Beaucoup ont essayé de le tuer. Même son fils, Absalom, a essayé de le tuer. Son beau-père également. Et à certains moments, il était entouré d'ennemis de tous côtés. Et David a appris rapidement. Et David cherchait Dieu de tout son cœur, régulièrement et dans les moments de crise aussi. Alors, voyez dans Psaume 27 maintenant. Psaume 27, c'est un exemple très encourageant pour nous ici, l'exemple du roi David. Il a vécu des situations effrayantes dans sa vie. Et lorsque ça nous arrive, nous pouvons compter sur Dieu, comme David a fait. Verset 1, psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? C'est vrai sur le plan spirituel, il est mon salut, mais c'est vrai sur le plan physique aussi. C'est lui qui peut me sauver des dangers physiques, comme il a fait pour David, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Il nous faut garder ça à l'esprit dans des moments difficiles et dire, de qui aurais-je peur, comme c'est écrit ici? Quand des méchants, verset 2, s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Lorsque des ennemis agissent ainsi envers nous, Dieu va s'en occuper. Verset 3, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, et nous verrons de la guerre, et nous verrons même la troisième guerre mondiale, mais il nous faut avoir confiance et il nous faudra avoir confiance, faire pleine confiance à notre Dieu. Verset 5, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Au jour du malheur qui approche, frères et sœurs, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et c'est là la promesse que Dieu fait à ses fidèles serviteurs dans son Église. Nous pouvons avoir une confiance solide à toute épreuve qu'il protégera ses enfants. Ça s'est appliqué à David en ces temps de crise, mais ce n'est pas limité à David lui-même. Ça s'applique aujourd'hui, au temps de détresse aujourd'hui et au temps de crise aujourd'hui. Quelle que soit la grandeur des épreuves, le même principe s'applique de la part du même Dieu protecteur, du même Père aimant envers ses enfants. David nous rappelle ainsi que nous avons une place à aller. Nous pouvons aller devant notre Dieu et nous réfugier sous ses ailes. Vous avez vécu ça, vous autres aussi. Lorsque nos enfants étaient petits, nous vivions dans l'Arkansas. Et dans cette région, il y avait beaucoup de tempêtes, beaucoup d'orages électriques. Il y avait des tornades souvent, des tempêtes de vent violents. Et quand il y avait un orage électrique majeur tard le soir, parfois, ça arrivait tout au long de l'année, à n'importe quel moment dans cette région. Ça faisait bien sûr beaucoup de bruit et les éclairs illuminaient la région et la maison. Et nos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là? Vous avez peut-être vécu ça. Nos enfants nous rejoignaient dans la chambre, mon épouse et moi, lorsqu'ils étaient tout petits. Et ils venaient se coucher avec nous. Ils reconnaissaient que nous étions leur protection. Ça les rassurait. Le lit devenait rempli avec les petits-enfants. Et parfois, ils dormaient un petit bout de temps jusqu'à ce que la tempête soit passée. Ils dormaient avec nous. Et après, on les retournait à leur lit. Alors, émotivement, dans nos vies, il y a des grandes tempêtes. La première chose, c'est de penser de trouver refuge en notre Dieu. Psaume 32, il y a tellement d'encouragement ici. De la part de David, qui a rencontré plusieurs situations dramatiques, mais qui a toujours été protégé par Dieu. Verset 6, « Qu'ainsi tout homme pieux te prie, au temps convenable, j'espère que nous allons nous en rappeler, si de grandes eaux débordent, que ce soit des eaux physiques, que ce soit des armées, elles ne t'atteindront nullement. Voilà la promesse de protection de Dieu. Verset 7, « Tu es, mon Dieu, un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. » Et nous pouvons avoir cette confiance, cette assurance. « Tu m'entoures de champs de délivrance. » Alors, on peut avoir cette attitude d'esprit paisible et joyeuse et confiance en notre grand Dieu, dans son amour infaillible envers nous. Dieu va nous délivrer lorsque nous lui faisons confiance et que nous plaçons notre vie entre ses mains. David a continuellement recherché Dieu, qui était la solution à toutes ses peurs et à toutes ses craintes. Il en est de même pour nous. Psaume 34 maintenant, psaume chapitre 34 et le verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Nous pouvons avoir cette même assurance que David avait. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quelle bénédiction extraordinaire de vivre de cette façon-là, d'avoir cette assurance, ce grand protecteur. Verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, voyez-vous, et il le sauve de toutes ses détresses. C'est enthousiasmant de réaliser que Dieu va nous protéger, qu'on peut avoir refuge en lui Et regardez verset 8. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. » Pensez-y. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui s'efforcent de vivre selon ses voies et qui vivent selon ses commandements. L'ange de Dieu est proche de nous pour nous protéger. Le récit de deux rois, reportez-vous à deux rois, chapitre 6, c'est un chapitre qui nous aide à visualiser les interventions que Dieu fait pour ses serviteurs, pour ses enfants. Deux rois, chapitre 6, et nous allons commencer à lire au verset 8. Gardez cette image du Dieu invisible qui intervient, qui est là et qui envoie ses anges pour intervenir pour ses serviteurs. Verset 8, « Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? » Autrement dit, il y a une taupe parmi nous, il y a quelqu'un qui va rapporter mes plans au roi d'Israël. Alors, le roi de Syrie était inquiet. L'un de ses serviteurs, verset 12, répondit, « Personne, ô mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Alors, ce qu'il dit ici, le serviteur de Dieu, Élisée, sait même ce que tu penses, et il sait ce que tu dis, et il le rapporte au roi d'Israël. Verset 13, et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Mon Seigneur, comment ferons-nous? » Autrement dit, nous sommes pris au piège. La ville est entourée d'une armée, d'une grande armée. Ça devait être très impressionnant. C'était alarmant. Verset 16, il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Ce n'était pas encore évident pour le serviteur d'Élisée. Verset 17, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Ouvre ses yeux pour qu'il voie tes merveilles, qu'il voie ta puissance, ton armée. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Incroyable! Quelle scène extraordinaire! Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation! » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Voilà une scène incroyable ici, qui démontre la puissance de Dieu et sa protection. Nous savons qu'il est là. Nous savons que les anges de Dieu le servent et sont des serviteurs envoyés pour nous aider. Il nous faut nous rappeler ces exemples-là lorsque nous sommes en temps de difficulté ou de crise. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. C'est quelque chose que nous devons nous rappeler parce que ça s'applique à nous, à chacun d'entre nous, si nous faisons confiance à Dieu et si nous marchons dans ses voies. Certains disent, ah, mais c'était le roi d'Israël, c'était des temps bibliques à l'époque. Mais écoutez, frères et sœurs, nous vivons dans des temps bibliques aujourd'hui et Dieu travaille actuellement avec ces enfants potentiels qui vont devenir littéralement des rois et des enseignants dans le monde à venir. Nous vivons dans ces temps bibliques où Dieu continue d'accomplir son plan. Allons au deuxième point que je veux souligner maintenant. La deuxième façon d'affronter les difficultés et les problèmes futurs, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Vous avez déjà entendu ça, mais il faut que ça devienne réel dans notre vie. Il nous faut faire confiance au Dieu puissant et nous ne devons pas vivre seulement par la vue, par la vision des choses, parce que nous voyons autour de nous, mais nous devons marcher par la foi. Le 11 septembre 2001, les deux tours jumelles ont tombé. On les a vues à plusieurs fois dans les vidéos et ça a fait le tour de la planète à plusieurs reprises. Et vous savez, pas longtemps après ça, l'assistance aux diverses églises du monde a augmenté énormément. Des millions et des millions de gens avaient assisté à la mort de plusieurs milliers de personnes à ce moment-là dans les tours qui se sont effondrées. Et là, les gens étaient frappés par ce qui se passait autour et les gens se sont lancés dans les églises, dans les différentes sortes d'églises à travers le monde pour se rapprocher de quelqu'un de plus grand qu'eux. Mais regardez, un an après, l'assistance aux églises était revenue au même niveau qu'avant la chute des tours jumelles. Les choses étaient revenues comme d'habitude. En un sens, on peut dire que la personne moyenne vit par ce qu'elle voit autour et non pas par foi au Dieu vivant. Alors, à la vue de cette destruction massive, ça a motivé les gens de se tourner vers Dieu, mais momentanément, tout simplement. Ils ont essayé de trouver Dieu, mais quelques mois plus tard, la nature humaine agissant en eux et la mémoire oubliant, les gens sont retournés à leurs petites affaires habituelles et ont laissé Dieu de côté. Les gens ont continué leurs petites choses habituelles, tout simplement. Les gens de Dieu doivent être différents. Nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu. Le Christ vit en nous. Lorsque nous sommes baptisés, si nous permettons au Christ de vivre en nous et si nous comptons sur lui, nous demandons sa foi pour vivre selon cette foi et non pas selon ce que nous voyons autour de nous ou selon ce qu'il y a dans notre compte de banque ou non, ou selon notre santé ou selon les circonstances. Non, nous marchons avec la foi en notre grand Dieu. Allez à Matthieu, chapitre 14, l'exemple de Pierre. Et c'est un exemple de la différence qu'il y a entre marcher par la foi et marcher par la vue. C'est le moment où Pierre a marché sur les eaux pendant un court moment. Et lorsqu'il a regardé, lorsqu'il a marché par la vue, lorsqu'il a regardé ce qui se passait autour, plutôt que de garder ses yeux sur le Christ, il a commencé à enfoncer dans l'eau. Matthieu 14 et le verset 24. La barque était déjà au milieu de la mer. Elle était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Bon, donc il y avait une situation de tempête sur l'eau. On voit l'ensemble de la situation ici. Donc le Christ a marché sur les eaux, allant vers la barque, et ça démontre l'immense puissance de Dieu. Et même si la tempête régnait sur l'eau à ce moment-là, le Christ avançait paisiblement sur l'eau. Verset 26, « Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme, c'est une apparition, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. C'est la nature humaine, c'est naturel de réagir ainsi. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » N'ayez pas peur. Faites-moi confiance. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux et je vais y aller. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Voyez-vous, il a marché sur les eaux en regardant le Christ. Mais lorsqu'il a vu, lorsqu'il a détourné ses yeux de sur le Christ pour regarder autour, il a vu la tempête. Et c'est ce que nous faisons de temps à autre lorsqu'on détourne nos yeux de Christ et qu'on regarde la situation économique ou autre. Alors, quand Pierre a tourné les yeux vers ce qui se passait autour, lorsqu'il a vu le vent, il a eu peur. Il commença à s'enfoncer. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et parfois, ce genre de choses peut nous arriver si nous ne faisons pas suffisamment confiance au Dieu vivant. Il nous faut vouloir marcher par la foi en ayant confiance absolue en Dieu, dans son royaume qui s'en vient bientôt. Il ne faut pas nous fier à ce que nous voyons autour, à cette société autour. Il ne faut pas nous fier même aux affaires dans lesquelles nous sommes impliqués. C'est Dieu en qui nous devons avoir confiance. Et c'est ça, marcher par la foi plutôt que par la vue. Les Écritures sont claires là-dessus. Il nous faut marcher par la foi et non par la vue. C'est notre but. 2 Corinthiens 5, 7 le mentionne aussi. Il y a plusieurs autres versets qui le mentionnent également. Allez à Matthieu chapitre 25. Ce que Dieu a promis, ce que Dieu a révélé dans sa parole, va s'accomplir. Nous pouvons être absolument certains que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Les promesses qu'il fait, il les réalise. Écoutez, nous avons tellement de prophéties que les prophètes ont annoncées et qui se sont réalisées, qu'on voit se réaliser maintenant. Nous savons qu'il y aura une troisième guerre mondiale, que l'économie va s'effondrer et tout ça. Mais ce que je veux vous faire réaliser, c'est que nous pouvons vivre notre vie sachant ce qui s'en vient, tout en restant proche de Dieu et que nous pouvons marcher par la foi maintenant. Et non seulement lorsqu'on rencontre de grandes situations difficiles ou de grandes peurs, mais dans des périodes de transition comme celle où nous sommes maintenant. Écoutez, est-ce qu'on fait confiance à Dieu? Est-ce qu'on sait que ce qu'il a dit va se produire? Ou s'il nous faut attendre de voir tomber les bombes sur nos villes pour croire, autrement dit, voir les choses arriver, plutôt que de croire ce que Dieu dit? Marcher par la foi, avec enthousiasme, avec zèle, en étant motivé par la foi de Dieu, plutôt que d'être motivé par les dangers réels et par les difficultés lorsqu'elles vont s'abattre sur nos nations. C'est beaucoup plus encourageant et beaucoup plus paisible et rassurant d'être proche de Dieu, de chercher sa présence et de compter sur lui. Matthieu 25. Matthieu 25, maintenant, nous avons une claire indication ici qu'on ne doit pas attendre à la dernière minute ou on ne doit pas attendre d'être au cœur de la tempête pour faire ce que nous devons faire. Nous devons agir maintenant. C'est la parabole, bien sûr, des vierges sages et des vierges folles. Ça nous montre qu'il nous faut être prêts, il nous faut nous préparer maintenant à ce qui vient et qu'il nous faut développer la confiance en Dieu maintenant, avant que les dangers plus grands s'abattent sur nous. Matthieu 25, verset 1, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Elles n'étaient pas préparées. Elles n'ont pas gardé leur esprit ou leur pensée sur les choses de Dieu. Elles n'ont pas jeûné suffisamment, elles n'ont pas étudié suffisamment, elles n'ont pas marché suffisamment avec Dieu, avec zèle. Verset 4. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alors, ces vierges-là s'approchaient continuellement de Dieu. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et ça peut nous arriver, frères et sœurs. Certains disent peut-être, « Ah, Dieu ne viendra pas tout de suite, il y a encore beaucoup de temps. » Mais regardez le verset 6. « Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Voilà le temps de démarrer et de partir. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. » Vous savez, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu en tenant le vêtement d'une autre personne. Il faut entrer sur nos deux pieds. C'est nous qui devons être prêts. Il nous faut de plus en plus penser comme Dieu, agir comme Dieu. Et ce n'est pas une autre personne qui va nous faire entrer dans le royaume. Il faudra être prêt, chacun d'entre nous. Et regardez ce que les sages disent aux folles, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Il y a un certain moment dans le temps où la porte sera fermée. Et ça, c'est une réalité qui va se produire. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » C'est un rappel qu'on voit dans Apocalypse 3 de l'attitude laodicéenne. Des gens qui ont la connaissance de Dieu, mais qui ne sont pas en feu littéralement pour la vérité qu'ils connaissent. Ils ont un pied dans l'Église, un pied dans le monde. Ils ne sont pas pressés pour changer. Ils sont contents de connaître ce qu'ils connaissent. Dieu dit, « Je vais vous vomir de ma bouche. » Ils ne seront pas sous la protection de Dieu. Verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et ça s'adresse à nous. On ne sait pas exactement le jour et l'heure où le Christ viendra. Il nous est dit d'être prêts, de nous tenir prêts. Et il nous faut être animés par l'Esprit de Dieu maintenant, ne pas attendre à demain. Et c'est ça, marcher par la foi et non par la vue. Luc chapitre 21 maintenant. Luc chapitre 21. On veut être digne d'entrer dans le royaume de Dieu. On sait que des temps difficiles viennent et on prend au sérieux la parole de Dieu, ses avertissements. Et c'est pour nos bénédictions que Dieu le dit. Regardez le verset 33. Le Christ dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Luc 21, verset 33. « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. » J'espère que ça ne se passe pas dans l'Église, ce genre de choses-là. Les soucis de la vie, votre carrière, votre statut social, et ainsi de suite. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'huile dans notre lampe. Il faut être prêt et avoir d'avance accumulé de l'huile. Verset 36, « Veuillez donc et priez en tout temps. » En d'autres termes, soyez dans cette attitude d'esprit de chercher constamment Dieu, de marcher par la foi plutôt que par la vue, afin que vous ayez la force, c'est-à-dire que vous soyez jugés dignes, selon certaines versions, d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout, c'est-à-dire vivant, devant le Fils de l'homme. C'est ce qu'on désire, paraître devant le Christ prêt pour être changé à la résurrection, pour être là au début du millénaire, pour servir le monde. Dieu va accorder une protection merveilleuse, incroyable à ses enfants. Et nous pouvons avoir cette assurance si nous sommes très proches de Dieu, si nous sommes jugés dignes, se faisant d'échapper à ces choses-là qui viennent. Toutes ces choses-là vont arriver, les choses qui ont été prophétisées. Mais si nous marchons avec Dieu, avec confiance, avec foi, il prendra soin de nous. Autrement dit, ce qui arrive dans notre vie maintenant, notre santé, notre situation, notre compte de banque, il ne faut pas mettre notre attention complètement là-dessus. Il faut mettre notre attention sur Dieu. Donc, ça, c'était le deuxième point. Il nous faut marcher par la foi et non par la vue. Alors, nous sommes dans cette période de transition actuellement qui va nous mener à notre naissance dans le royaume de Dieu. Troisièmement, Dieu va combattre pour nous si nous sommes proches de lui, si nous nous permettons de combattre nos combats, si nous le supplions régulièrement, si nous jeûnons, si nous nous approchons de lui, si nous approfondissons sa parole et si nous en vivons, nous n'avons pas besoin de crainte selon sa parole, selon sa façon de penser, selon sa façon de voir, lui qui est le Père parfait. Voyons un exemple courageux. J'aime beaucoup cet exemple. Deux Chroniques. Ça concerne la nation de Juda et ça concerne le roi Josaphat qui a marché avec Dieu, qui a vécu une expérience vraiment spéciale. Deux Chroniques 20. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Deux Chroniques 20, verset 1. « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. » verset 3. On vient en informer Josaphat, verset 2, en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. » Donc, voici une grande crise et un danger majeur qui approche. Est-ce que on doit, dans un cas comme ça, prendre panique ou se tourner vers Dieu? Et là, il y a une grande leçon pour nous ici dans l'exemple de Josaphat. Verset 3. Dans sa frayeur, il a eu peur, bien sûr, humainement. Il a mis confiance en Dieu. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia quoi? Un jeûne pour tout Juda. Voyez-vous comment s'approcher de Dieu? Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Ça devait être très impressionnant. Le peuple a cherché Dieu pour être délivré. Verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères. » J'aime cette section ici. Josaphat parle courageusement, mais avec beaucoup de respect, non pas de façon arrogante, mais il parle clairement et du fond du cœur à son grand Dieu. « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? » Autrement dit, il reconnaît son autorité suprême. « N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? » Alors, ça reconnaît la grande puissance de Dieu, son autorité suprême. Verset 7. « N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? » C'est formidable comme déclaration. Il rappelle les actes que Dieu a faits pour Abraham et pour son peuple. Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras, et tu sauveras. » Voyez-vous? Merveilleux! Quelle assurance extraordinaire! Josaphat a rappelé à Dieu que Dieu agit et que Dieu répond aux prières. C'est formidable, cette façon de chercher Dieu. Verset 10, il continue sa prière à Dieu. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici, verset 11, qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Quel courage de la part de Josaphat. Et quel exemple de leadership. Verset 12. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Autrement dit, nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas selon ce que nous voyons autour. Verset 13. Allons au verset 15 plutôt. Verset 15, il dit ceci, c'est le serviteur qui dit ici, le serviteur du roi, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, il était inspiré par Dieu, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette grande multitude, car ce ne sera pas vous qui combattrez. » Nous savons que c'est là notre vie. Si nous faisons confiance à Dieu, si nous le cherchons de tout notre cœur, c'est lui qui combat nos combats pour nous. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux et ils vont monter par la colline de Tite et ainsi de suite. Et regardez le verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Et à la fin, ça dit « L'Éternel sera avec vous » à la fin du verset. Et ça s'applique à nous aujourd'hui, individuellement et collectivement, en tant qu'Église. Nous avons cette sorte de leadership dans l'Église. Nous avons les évangélistes au quartier général, M. Meredith, M. Ames, Dr. Winnell, M. Appartient. Nous avons cette sorte de leader et il nous faut avoir cette sorte de courage individuellement et collectivement. Est-ce que c'est ça notre état d'esprit? Est-ce que nous sommes disposés à mettre toute notre confiance en Dieu et à lui demander de combattre nos batailles? Est-ce que nous sommes disposés à lui remettre totalement notre confiance entre ses mains et notre vie entre ses mains? Allons à Apocalypse chapitre 12 maintenant, s'il vous plaît. Apocalypse 12. On regarde vers l'avenir. Il y a des temps de difficulté qui viennent. Ce sera un temps de manifester le courage par la force de Dieu. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et Satan sera jeté sur la terre avec ses démons juste avant la grande détresse. Verset 13, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il est dit ici? Ça décrit ce qui va se passer à ce moment-là. Quand le dragon, Satan, vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme, l'Église, qui avait enfanté le Fils. Ça parle de l'Église de l'Ancien Testament, Israël, mais ça parle de l'Église actuelle, l'Église spirituelle de Dieu. Verset 14 maintenant. « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. » 3 ans et demi, prophétiquement. Et les serviteurs de Dieu, ses enfants, seront protégés par Dieu. Verset 15. « Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. » Ce sera possiblement des armées, mais Dieu est plus puissant que tout ce qui pourrait être lancé contre son petit troupeau à ce moment-là. Verset 16. « Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. » C'est clair. Si nous marchons par la foi et non pas par la vue, si nous mettons notre confiance en Dieu même à des moments comme ceux-là, nous allons voir que Dieu peut et va intervenir. De la même façon qu'il est intervenu pour Moïse et pour les Israélites, et de la même façon qu'il est intervenu pour la tribu de Juda et le roi Josaphat, comme on a vu. Verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus. » Ils ont la vérité, mais ils marchent par la vue. Ils recherchent Dieu seulement quand la pression est forte. C'est un avertissement pour nous. Nous devons être alertes et nous devons remettre nos vies entre ses mains et avoir entièrement confiance à Dieu. Dieu est là continuellement pour nous. Satan ne peut pas nous toucher si nous sommes proches de Dieu et si nous marchons par la foi. Aucune puissance dans l'univers est suffisamment forte pour faire obstacle à Dieu, même pas Satan et tous ses démons ensemble. Dieu va intervenir puissamment pour nous, pour son petit peuple. Allez à Psaume 91, s'il vous plaît. Psaume 91, ça décrit ce qui va se produire à la fin du monde lorsque Satan va vouloir s'en prendre à ceux qui sont philadelphiens, qui marchent par la foi et non pas par la vue. Psaume 91 et le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça décrit ceux qui font confiance à Dieu. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Voyez-vous, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. C'est mon protecteur. C'est celui qui me défend. Je peux lui faire entière confiance. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. De toutes sortes de pièges, toutes sortes de maladies, toutes sortes d'épidémies, toutes sortes de maladies mortelles, que ce soit la grippe porcine ou autre. Dieu a la puissance de protéger son peuple. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Si vous lui faites confiance, il va vous protéger. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est formidable, c'est tellement encourageant. Même la connaissance, le fait de savoir que le royaume de Dieu approche, ça nous encourage et ça nous donne la force de continuer. Verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Que 1000 tombent à ton côté. Peut-être qu'on verra ça, alors que Dieu va nous donner de sortir de cette société. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas. Si vous marchez par la foi, vous verrez par la vue ce qui se passe autour. Et vous allez comprendre pourquoi ça se passe et vous allez réaliser encore davantage que c'était annoncé. Vous y avez cru. Vous allez le voir arriver. Mais tu ne seras pas atteint. Dieu va nous délivrer. Dieu va délivrer ses enfants. Quatrième point maintenant. C'est que Dieu jamais ne nous abandonnera. Nous sommes ses enfants. Hébreux 13 et le verset 5. Jamais Dieu ne nous abandonnera. Ça, c'est le quatrième point qu'il faut se rappeler. Ne vous livrez pas à la convoitise. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Vous n'avez pas besoin d'essayer de vous bâtir un empire ou de vous bâtir une protection incroyable par rapport à ce qui vient. Non. Servez Dieu, obéissez-lui, faites votre part et laissez Dieu faire le reste. Si Dieu est avec vous et si vous êtes avec lui, Dieu sera avec vous. Que peut-il nous arriver? C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, verset 6, « Le Seigneur est mon aide, je ne crains de rien, que peut me faire un homme? » Bien sûr, il y a là des temps difficiles, nous sommes dans une période de transition, mais nous pouvons avoir la certitude que Dieu va toujours être avec nous si nous restons proches de lui. C'est un peu le même principe qu'avec les petits-enfants. Je me rappelle, lorsqu'on a élevé nos petits-enfants, on se promenait parfois avec un petit en le tenant par la main. Et parfois, le tout petit tombait et le parent le reprenait par le bras et le remettait sur pied et le petit bonhomme continuait. Écoutez, Dieu fait la même chose avec nous. Dieu va nous soutenir. On peut retrouver notre équilibre si Dieu est vraiment avec nous, si nous sommes vraiment avec lui, il sera vraiment avec nous et nous pouvons retrouver notre équilibre et notre paix d'esprit et continuer notre chemin, quelles que soient les difficultés. Et quels que soient les problèmes qui peuvent se présenter sur notre route. Allez à psaume 139, s'il vous plaît. Psaume 139. Continuellement, le roi David est resté proche de Dieu, réalisant que Dieu allait le sortir de toutes ses difficultés, que Dieu ne l'abandonnerait pas. Il nous faut avoir cette confiance parce que nous avons cette même promesse. Psaume 139 et le verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Est-ce que vous pouvez vous cacher loin de Dieu? La réponse est non. Si vous êtes proche de Dieu, il fera sentir sa présence. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Voyez-vous, Dieu est toujours proche de nous, où que nous soyons, si notre cœur est avec lui, si nous sommes avec lui de tout cœur. Dieu a promis qu'il nous soutiendrait de la même façon. Le roi David avait une confiance inébranlable, unique en son Dieu. Et nous devons avoir cette même sorte de confiance. Dieu nous offre cette même sorte d'assurance. Voyons les paroles de réconfort de Dieu à la nation d'Israël. Et ça s'applique encore plus à nous aujourd'hui, Israël spirituel. Ésaïe chapitre 41 et le verset 10. Il nous est rappelé de ne pas nous inquiéter. Dieu a dit ça à plusieurs reprises à ses serviteurs. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne paniquez pas, car je suis ton Dieu. Je suis ton Créateur. Je suis ton Père. Je te fortifierai. Je viendrai à ton secours. Je te soutiendrai de ma droite triomphante. dans le peu de temps qui nous reste avant le retour du Christ, d'ici quelques années, nous allons voir des événements uniques dans toute l'histoire du monde. Mais nous allons devenir les premiers-nés de la famille de Dieu, les prémices. Nous avons toute raison d'avoir confiance. Et il nous est dit dans 1 Jean 4:4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui, c'est-à-dire Satan, qui est dans le monde. » Et si vous avez le Christ en vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et vous avez la garantie que si vous ne flanchez pas, si vous ne reculez pas, si vous ne négligez pas, si vous êtes proche de Dieu de tout votre cœur, le Christ en vous va combattre vos combats, va vivre sa vie en vous au cours des dernières années. Et il va vous transmettre sa puissance, son pouvoir pour vaincre le monde, pour vaincre les difficultés, pour passer à travers de toutes les situations qui vont se présenter. Il va nous défendre par sa toute-puissance. Nous avons un avenir, nous avons un espoir, nous avons une espérance. Et lorsque les contractions de notre processus de naissance vont devenir plus puissantes, nous pouvons être encouragés. Allez à Jérémie. Jérémie chapitre 29. Dieu veut qu'on réussisse. Il a à l'esprit un avenir pour nous. Il tient à ses enfants comme la prunelle de ses yeux, comme c'est écrit. Et voici les paroles encourageantes que nous devons amener avec nous au cours des prochains mois et des prochaines années et des temps difficiles qui seront là. Jérémie 29 et le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur qui peut venir de la société, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Frères et sœurs, Dieu nous offre un véritable avenir extraordinaire et un espoir merveilleux. Nous pouvons avoir une confiance inébranlable en lui. Cherchons-le de tout cœur. Et comme un père aimant, il nous rendra à terme, il nous mènera à bon port.